si, je ferai ça. Appelez-moi au 3210. Racontez-moi vos petits rêves, les amis. Je vous donnerai les miens tout de suite.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. La Côte d'Or, au cœur de la Bourgogne. C'est la première destination nature et patrimoine entre Paris, Lyon et Strasbourg. Des sites inscrits à l'UNESCO, des plus beaux villages de France, le parc national de forêt, le parc du Morvan, des itinéraires gourmands, dont la célèbre route des Grands Crus. Tout commence sur lacotedorjadore.com.
Renault. Le prix du carburant augmente, mais vous n'êtes pas prêt à passer à l'électrique. Faites des économies avec la motorisation Renault E-Tech Full Hybrid. Jusqu'à 40% de consommation de carburant en moins et jusqu'à 1100 km d'autonomie. Renault Austral E-Tech Full Hybrid. À partir de 380€ par mois et 2 mois de loyer offert.
Austral Evolution E-Tech Full Hybrid 200 hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 500€, deuxième et troisième loyer offert. Offre à particulier du 1er au 31 mai si accordiaque, voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
RTL.
RTL, il est 14h. Et voici les toutes dernières infos avec vous, Lisa-Marie Marquez. À la une, un 1er mai très politique avec un grand meeting à Perpignan pour le Rassemblement National, mais aussi à Saint-Étienne. Raphaël Glucksmann du Parti Socialiste Place Publique n'a pas pu rejoindre à Saint-Étienne le cortège du 1er mai.
Oui, la tête de liste du PS Place Publique aux Européennes a été prise à partie par des militants qui lui ont jeté de la peinture. Raphaël Glucksmann dénonce l'attitude d'une cinquantaine d'énergumènes de LFI. 270 manifestations au total se déroulent aujourd'hui dans toute la France pour la fête du travail.
Et c'est lui, Raphaël Glucksmann, qui utilise ce terme, hein, énergumène.
Oui, comme je vois
qu'il y a des guillemets sur votre texte. Et puis au Proche-Orient, Lisa-Marie, une réunion importante va se tenir aujourd'hui. Un peu d'espoir, peut-être.
Oui, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'objectif de cette réunion sensible est de faciliter la mise en place d'une trêve dans la bande de Gaza.
Et puis, pour les passionnés de foot, hein, ce soir, l'événement de la journée, en tout cas, c'est le match PSG-Dortmund, ou plutôt Dortmund-PSG ce soir.
Demi-finale aller de la Ligue des Champions, et on vivra la rencontre ensemble sur RTL en direct dès 20h. RTL Foot avec Eric Silvestro, Nicolas Georgerot et Philippe Sansfourche.
Allez, la météo.
Demain, jeudi, le temps restera couvert et pluvieux sur toute la France. Les averses seront fortes et orageuses à l'est du Rhône. Il neigera au-dessus de 1400 mètres dans les Pyrénées, 1800 mètres dans les Alpes, et les températures 7 à 13 degrés attendues demain matin entre le nord et le sud de la France.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
La petite musique de l'Euromillion. Pourquoi parlons-nous de l'Euromillion aujourd'hui ?
Parce que le tirage de l'Euromillion d'hier soir a fait un heureux, un Français ou une Française, hein, on ne sait pas, hein, a remporté 166 millions d'euros, le jackpot exceptionnel. On sait que le ticket a été acheté en France, mais on ne sait pas précisément où. Et on peut juste se mettre à la place de celui ou celle qui s'est réveillé avec la grille, avec les numéros 13, 22, 24, 33, 47 et les étoiles, la numéro 1 et la 5.
166 millions d'euros, là on n'est pas dans la bagatelle. 166 millions d'euros, c'est pas 2, 3 millions, 166 millions d'euros.
Ça change la vie, je crois.
Ça change la vie. Vous faites comme moi, ça vous arrive souvent de vous dire dans des embouteillages ou ailleurs, en vous endormant, vous lisez à Marie, qu'est-ce que je ferais?
Mais comme dans la pub, quel millionnaire seriez-vous? Vous me posez la question. Bah oui, moi je me dis, je me pose souvent la question et je crois que j'achèterais des appartements et des maisons partout dans le monde.
Ouais.
Et je vivrais comme ça.
Passant d'une maison à l'autre.
Voilà, exactement. Je pense que ce serait ça. Je voyagerais et puis ce serait pas mal.
Ouais. Victor Standard, qu'est-ce que vous feriez vous si vous gagniez ces 166 millions?
Il y a Brice qui dit j'achète un vélo. Oui, j'achète un vélo, mais je fais aussi un tour du monde en vélo, pourquoi pas d'ailleurs. Mais je pense que je voyage, ouais.
Vous vous offrez un tour du monde, ouais.
Ouais. Pour découvrir
un tour du monde, même en dépensant comme un chacal.
Eh ben,
ça va vous coûter un million.
Plusieurs.
Eh ben, j'en fais deux, trois, quatre. C'est pas grave.
Et Damien, le réalisateur de l'émission, Damien.
Pareil, bonjour. Je pars en voyage, Eric.
Ouais.
Le seul souci, c'est que je joue pas. Donc je ne suis pas prêt de gagner.
Et vous, Eric, et vous,
si
alors
si vous partez en voyage, qui va réaliser l'émission, les auditeurs?
Quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un à ma place, Eric.
Mais vous, Eric, alors, vous faites quoi avec 166 millions d'euros?
C'est pas très banal. Moi, j'aime les maisons, les vieilles pierres, donc j'achèterais peut-être une vieille maison.
Ce serait une très, très grande maison, quand même.
Ouais. Très grande. Mais non, mais je l'achèterais pour 1 million, je ne sais pas, ou 500 000, ou 2 millions. Mais, et avec le reste, je crois que je donnerais un peu.
Il me reste quand même 164, Eric.
Oui, il me reste 164. Je donnerais un peu à la famille.
Et à vos collègues.
À mes collègues.
Oui.
Merci, Eric.
À votre formidable équipe.
Et je ferai ce que font Damien et ce que font Victor, car il n'est de richesse que de voyage et que de découverte. Je ferai un tour du monde et je me promènerai et je m'arrêterai longtemps, parce que souvent les gens, ils font un tour du monde en un mois parce qu'ils ont du travail. Non, moi je ferai un tour du monde de 3 ans. Voilà.
Ce serait pas mal.
Bon, allez, Pierre a fait le 32-10. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Vous avez gagné, vous, déjà, paraît-il, me dit Victor dans l'oreillette.
Ouais, il y a longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années. Bon, alors, il me semble bien inférieur. Ouais. J'avais gagné quand même, malgré tout, 250 000 euros.
Ah ouais, qu'est-ce qu'on fait quand on gagne 250 000 euros il y a une dizaine d'années?
Quand on a 25 ans, surtout, on est stupéfait. Et puis après, vite, on met de l'argent de côté. Et notamment, moi, j'ai tout de suite acheté mon appartement. Et quand on attaque dans la vie à 25 ans, ça aide, quoi. Hein.
C'est-à-dire, vous avez une somme qu'on pourrait intituler du beurre dans les épinards, alors que 166 millions d'euros, c'est pas du beurre dans les épinards, c'est ma vie change du tout au tout, c'est terminé, je deviens riche et je travaille plus, on peut pas
clairement
travailler.
Ben non, clairement, moi je suis resté les pieds sur terre, ça fait plaisir, hein, ça va pas se mentir, mais derrière, avec une somme comme ça, malgré tout on reste au travail, mais on améliore grandement une partie de son quotidien malgré tout.
Ouais. Donc vous vous êtes retrouvé à 25 ans avec un bien immobilier pratiquement payé?
Exact, payé même, puisque c'est un appartement, un petit appartement.
Sauf que maintenant, vous vous dites, il est payé, mais j'en vois plus la trace de mes 250 000 euros. J'aimerais bien
aujourd'hui, il est en location. Il est en location, puisque j'ai acheté une villa il y a quelques années avec ma femme. Et donc, celui-là, on l'a mis en location. Donc, c'est malgré tout un placement sur la durée.
Pierre, vous avez une minute pour revivre et me raconter le moment où vous avez appris que vous avez gagné 250 000 euros au loto.
Tout simplement, je ne l'ai pas appris tout de suite, parce que le billet était resté dans la voiture. Et en fait, le lendemain, en partant au boulot, je dis, tiens, peut-être quand même que je regarde mes numéros. Et en fait, là, j'ai regardé. La première fois, je dis, tiens, c'est bizarre, je n'ai pas gagné. Puis je reprends je m'arrête, parce que j'étais en voiture. Je m'arrête, là, je regarde et je fais, ah mais si, en fait, j'ai gagné. Et j'ai pas pris la grille des gains. Je suis tout de suite allé chez un buraliste et il m'a dit, j'étais dans la réserve, en fait. Et il m'a expliqué la suite des choses, comment ça se passe avec la Française des Jeux, tout ça. Au début, on n'y croit pas. Et puis, petit à petit, on se rend compte que si, c'est bien vrai. Puis quand on a le chèque et qu'on l'encaisse, voilà.
Est-ce que vous avez fait un... Vous avez poussé un cri, appelé.
Alors, pas dans la rue, ni dans le... J'ai resté discret dans le bureau de tabac. Par contre, à la maison, une fois rentré, ça a été l'euphorie pendant un bon moment. On a
Quel est le premier coup de fil que vous avez passé quand vous avez été certain que vous aviez gagné?
Mes parents.
Vos parents, ouais.
Moi, mes parents, pour leur dire que on parlait d'appartement, le problème était réglé, du coup.
Merci, Pierre, de ce témoignage. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Continuez comme ça, vous êtes formidable.
Merci, Pierre. Salut.
Bonne journée à vous.
Bonne journée. Edwige a fait le 32-10. Bonjour, Edwige.
Oui, bonjour, Eric. Je suis ravie de vous avoir au bout du fil. Et donc, écoutez, moi, j'ai des petits-enfants, j'en ai 6. J'ai des enfants, mes petits-enfants ont surtout des projets, donc ça les aiderait vraiment un petit coup de pouce, hein, même agro à la limite, et puis donner à des associations où il y a tellement de gens qui ont besoin, et puis moi je rêve d'un voyage en Irlande. Et puis peut-être, comme dans le temps j'ai élevé des moutons, je me referais bien une petite bergerie avec des moutons, voilà.
Ah oui. Parce que là vous avez élevé des moutons dans le temps là, mais maintenant vous êtes une citadine.
Je suis à la campagne, je suis retraitée. Ouais. Mais je suis toujours à la campagne.
Oui, d'accord. J'ai, vous feriez une petite bergerie avec quelques moutons. Et l'Irlande, c'est magnifique. Alors, alors là, vous savez que si jamais, bon, faut pas rêver, mais voilà, des sommes comme ça, c'est tellement considérable.
C'est trop.
Que...
Oui, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop parce que ça, il faut garder la tête sur les épaules et les pieds sur la terre, on va dire. Ouais. Mais on n'a pas été habitué, si vous voulez, à avoir autant. Et ça fait, moi, je trouve que c'est beaucoup trop d'un seul coup parce que ça peut aussi. Aller dans le sens inverse.
Oui, hein, ça peut rendre dingue. Edwige, vous adoreriez visiter l'Irlande. Vous avez lu le livre ou vu le film avec Philippe Noiret, Un taxi mauve?
Bien sûr.
Ouais, oui. Sur l'Irlande, ça fait pleurer d'émotion. Il est sublime, ouais. ce film.
Oui.
Ouais.
Mais c'est un pays qui m'attire et j'ai un petit peu voyagé, pas beaucoup, parce que j'habite la campagne depuis très longtemps et j'ai pas beaucoup voyagé avec un mari artisan et donc Et donc ça me tend très bien. Et puis je vous dis faire plaisir à mes enfants. Bon, ils sont déjà grands, ils ont déjà pas mal de choses, mais surtout mes petits enfants qui ont des projets et ça aiderait. Voilà, ça serait vraiment. Mais voilà. Bon, j'ai pas gagné. Hein?
Non, vous n'avez pas gagné. Mais il n'est pas interdit de rêver. L'Irlande, le Connemara, ça sera le premier voyage d'Edwige. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron ?
Oui, allô.
Allô de Volvic, patron. Parce qu'en ce moment chez Lidl, le pack de 6 bouteilles d'un litre 5 de Volvic est à 3,18€ et le deuxième est à moitié prix, soit 1,59€.
Moins 50% sur le deuxième pack ? C'est une offre...
Très volcanique, comme la Volvic.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 35 centimes le litre pour un pack, 27 centimes le litre pour deux packs. Offre valable jusqu'au mardi 7 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. La BD RTL du mois a été décernée à l'album La Route de Manu Larsonnet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy. Avec une originalité absolue mais dans une totale fidélité, Manu Larsonnet s'approprie l'univers sombre et fascinant de ce texte majeur de la littérature américaine. Une adaptation d'une beauté saisissante, à la fois puissante et poignante. La Route de Manu Larsonnet, d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, aux éditions d'Argo, élu bande dessinée RTL du mois, avec Cultura. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour RTL, c'est Marie-Ève. Je vous appelle de Rettisheim dans le Haut-Rhin en Alsace. Alors je suis ravie pour cette personne qui a gagné 166 millions d'euros. Je trouve ça formidable. Et tant mieux pour elle. Moi je n'ai pas joué, donc évidemment je ne pouvais pas gagner. Et moi si j'avais l'opportunité de gagner une telle somme, je serais ravie d'emmener mes étudiants en voyage à l'étranger. Ce serait ma contribution à leur éducation. Ce serait leur offrir à tous, et j'ai 20 classes. Donc ça ferait une jolie somme, mais avec 166 millions d'euros, on a de quoi voyager. Bonne émission à vous, à bientôt.
Merci, avec 166 millions d'euros, mais mesdames, messieurs, on peut rêver en grand avec 166 millions d'euros, parce qu'on peut acheter une colonie de vacances pour ses étudiants, on peut acheter on peut acheter mais tellement de choses, on peut acheter une grosse entreprise avec des centaines de salariés, si on a envie de sauver une boîte, par exemple, une activité artisanale qui est en train de disparaître, un savoir-faire, on peut acheter tellement de choses, un bateau gigantesque, une chaîne de restaurants,
un avion,
166 millions, c'est pas 3 millions, c'est considérable. Je dis des banalités. Bon, Yann, alors ça c'est l'euro million.
Ça a été remporté hier, mais ce soir il y a le loto.
Donc c'est un Français qui a gagné l'euro million.
Ou une Française,
Française.
En tout cas, quelqu'un dans l'Hexagone. Et ce soir, il y a 12 millions d'euros à gagner au loto. Le loto, Bon, c'est moins, mais c'est déjà pas mal, 12 millions. Moi je prends.
On va s'en satisfaire. Alain, fait le 32-10. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Eric. Bonjour Lisa Marie.
Vous avez déjà gagné, vous Alain?
Alors, ça fait, il y a 17 ans,
oui.
Avec mon épouse, moi j'y croyais pas au début, une petite somme modique, mais 47 000 euros.
Ah, 47 000 euros, oui, vous avez raison, c'est tout petit à côté de 166 millions.
Oui, mais bon, elle était originaire de l'Outre-mer, puisque moi je suis de La Réunion, oui. Donc elle avait rarement voyagé, on est parti en période de vacances, puisqu'elle était salariée de l'Éducation nationale, on a passé 17 jours dans le Pays Basque, on s'est pas privé, mais on en a bien profité. Voilà, on a fait toute la région Pays Basque, Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Lourdes, etc. Et puis on a pu changer un petit peu de nos meubles, retour, mais on n'a pas dépensé à outre mesure, voilà.
Oui.
Avec modération, et je trouve que c'était bien. Voilà, et puis elle en a bien profité puisqu'elle m'a quitté, elle est partie du Covid il y a 3 ans et demi. Ah. Et donc j'estime qu'on en a bien profité tous les deux. Voilà, elle le méritait bien.
D'accord. Ouais, c'est un joli souvenir pour vous.
Sans sortir un petit peu du sujet, moi j'aimerais que vous fassiez un jour une émission concernant tous les problèmes que rencontrent les personnes lorsqu'ils arrivent devant l'administration, il n'y a aucune réponse. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Moi j'étais travailleur social, oui. J'ai arrêté il y a 10 ans. Il n'y a pas d'argent dans les caisses et les agences sociales ne savent pas quoi répondre. Monsieur Macron a mis en place des organismes qui s'appellent France Service. Oui. Ils ne connaissent rien du tout. Voilà. Ils ne connaissent absolument rien. Et c'est vraiment...
Alors, Alain.
C'est vraiment dommage. Parce que quand on se trouve devant une assemblée sociale qui vous dit « Ah ben, il y a d'autres urgences, vous n'êtes pas prioritaire. » Moi, quand elle est décédée, l'appartement appartenait à l'Éducation nationale. Au bout de 3 mois, on m'a mis dehors. J'ai jamais retrouvé mes meubles.
D'accord, Alain.
Vous voyez, et ça, alors que je sortais d'un deuil. Et je pense qu'il y a un grand problème. Comme disait tout à l'heure Maître, je m'en souviens plus, et il aurait Rossi pu rajouter, je pense que le droit au logement est aussi écrit dans notre Constitution.
Bien, Alain, on est un tout petit peu, même énormément, dans un hors-sujet, mais oui, je vous écoute et c'est la vie, et nous, c'est tous des tranches,
voilà,
c'est des tranches de vie qui se superposent, qui se juxtaposent. Et bien, écoutez, je suis très heureux que ça ait égayé votre quotidien, le quotidien de votre compagne qui est partie victime du Covid, nous avez-vous dit, il y a 3 ans. En tout cas, 47 000 euros, c'est tellement loin de cette somme gigantesque. 166 millions d'euros gagnés par une Française ou un Français à l'euro million. Monique, dont on ignore encore le nom, on ne sait rien sur cette personne, et on ne sait même pas si elle s'est signalée.
Elle a 60 jours pour se déclarer à la Française des Jeux, si elle nous écoute.
Monique, bonjour Monique.
Allô ?
Bonjour ma chère Monique, alors que feriez-vous, ma chère Monique, s'il vous arrivait de gagner une telle somme ?
Eh bien écoutez, je penserais surtout aux animaux.
Oui. Ah, la cause animale.
La cause animale, alors là je dirais un fond, je dirais... Bon, c'est vrai que j'ai un certain âge, mais étant plus jeune, je pense que c'est pareil aussi. Parce que je me contente, je suis heureuse avec 100 fois rien... Bien sûr, je pense aussi aux êtres humains.
C'est-à-dire, vous faites partie des gens. Attendez. Avant de parler des animaux, vous faites partie des gens qui disent si je gagne une fortune gigantesque, parce qu'avec encore une fois 166 millions d'euros, vous pouvez racheter des entreprises avec des centaines de salariés, vous pouvez faire des choses complètement dingues, vous pouvez acheter une chaîne d'hôtels, des bateaux, un petit paquebot, que sais-je, enfin, je connais pas les prix. Mais vous, vous dites je vis simplement, je ne veux pas changer mon quotidien. C'est ça.
Exactement. Exactement. Bien sûr, les êtres humains aussi, il y a les nécessiteux, il y a beaucoup à faire partout, je les oublierai pas non plus. Et surtout les animaux qu'on oublie beaucoup trop, parce qu'ils nous sauvent la vie, on sert d'eux pour faire des essais pour pas mal de choses, pour les maladies, etc.
Vous feriez votre Brigitte Bardot un jour, je me souviens, elle avait dit, je ne reconnais qu'une chose dans ma vie, dans ma carrière, que j'ai réussi, c'est d'avoir mis ma popularité et ma notoriété d'actrice au service de la cause animale.
Voilà.
Alors ça, je suis très fier de cela.
Voilà.
Elle n'avait pas du tout parlé de sa vie d'actrice, à la limite, on aurait presque pu dire qu'elle était mauvaise actrice, ça, elle s'en fichait complètement. Mais
voilà.
D'avoir réussi à mettre ça au service de la cause animale, c'était sa grande fierté. C'est sa grande fierté.
Ouais.
Et vous dépenseriez sans réfléchir pour les refuges animaux, pour les chiens,
oui,
les chats.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que je garderais quelques jeunes, améliorerais un petit peu ma vie, mais bon, en plus que j'ai un certain âge, évidemment. Mais même en étant plus jeune, j'ai jamais rêvé de faire des grands voyages, de faire des. Vous voyez ? Donc. Ouais.
Eh bien, bravo pour cette sobriété de quasi monacale de Monique qui dit, moi, je gagne 166 millions d'euros, je ne change pas ma vie. Eh bien, dis donc, les amis, c'est assez exemplaire, Monique, ce que vous dites.
Ça vient du fond du cœur, en tous les cas.
Ouais. Bon, merci, ma chère Monique.
Merci beaucoup.
Bon, tout ça n'était que des rêves, mesdames, messieurs. Arrêtez de rêver, revenez à la réalité, vous n'avez pas gagné 166 millions. Quoique, si vous avez joué, allez regarder quand même votre ticket de l'euro million, parce qu'il n'est pas certain que la gagnante ou le gagnant gagnant français le sache à 7 minutes.
Et vous savez qu'au-delà de 60 jours, la somme est remise en jeu dans une nouvelle cagnotte. Bon. Donc, si dans 60 jours, le français ou la française qui a remporté ses 166 millions ne s'est pas manifesté, déclaré à la Française des Jeux, eh bien on pourra rejouer
au Canada,
et tenter.
Au Canada, ils savent dans quelle ville a été validé le ticket. Et donc il y a une espèce de crieur des rues avec un tambour qui passe et qui dit voilà, il vous reste plus que 24 heures, 48 heures.
Ça met la pression.
Bon, où allons-nous ? Allons-nous ?
Bah avant d'aller retrouver notre auditeur du bout du monde, vous devez deviner où il se trouve. Et pour ça, comme tous les jours, on vous propose un indice sonore. Là, c'est dans le nom du groupe que vous devinerez la destination de cet auditeur du bout du monde. Et si vous trouvez, vous nous envoyez tout de suite un message sur l'application RTL pour tenter de remporter un guide du routard.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie, AG2R La Mondiale vous accompagne pour définir l'épargne la plus adaptée à vos besoins futurs. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseillers ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
En ce moment, chez Conforama, tout le monde gagne!
Avec la télé TCL 139 cm QLED et sa plateforme Google TV intégrée à 479 €, soit 70 € d'économie.
Et en plus, jouez à notre grand jeu et tentez de remporter un salon du supporter entièrement équipé d'une valeur de 3 800 €.
Conforama, jusqu'au 3 juin, jeu sans obligation d'achat, voire règlement en magasin ou sur Conforama.fr.
Exclusif en clair sur M6. Vivez la demi-finale aller de l'UEFA Europa League Olympique de Marseille Atalanta Bergame. L'objectif pour les Marseillais sera de remporter ce match à l'Orange Vélodrome et espérer ainsi se qualifier pour la finale lors du match retour. La demi-finale Olympique de Marseille Atalanta Bergame, commentée par Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri, c'est demain à 20h50 sur M6.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Victor, ce groupe qui chante en anglais avec cette voix cristalline, c'était bien London Grammar.
Oui, et du coup on part à Londres, bah oui. Et c'est Maria Fatima qui remporte un guide du routard.
Eh bien c'est parti, on va à Londres.
L'auditeur du bout du monde.
Bonjour Jean-Charles.
Bonjour Eric.
Bonjour.
Quel temps fait-il à Londres aujourd'hui, mon cher Jean-Charles ?
Il ne pleut pas.
Ah, il fait déjà beau bon aujourd'hui. Signe.
C'est déjà beaucoup.
Ouais. C'est déjà beaucoup. On a eu un mois d'avril horrible.
Bon, que faites-vous à Londres ?
Alors, moi, je suis importateur de vin.
Ah bon ?
J'importe nos bons produits français.
Les Anglais, ils sont plus Bourgogne, Vallée du Rhône, Bordeaux.
Bordeaux, peut-être ?
Alors, c'est assez. Disons qu'ils sont pas mal ouverts sur le monde également. Mais moi, comme je tiens une petite boutique, je vends pas mal de Bourgogne et de Bordeaux, tout simplement parce que le marché est saturé par la grande distribution au UK. Et donc, les producteurs en Bourgogne sont assez petits, trop petits pour fournir les supermarchés.
Ah oui.
Et donc du coup, ouais, j'ai une clientèle qui s'intéresse beaucoup au vin de Bourgogne. Les vins de Loire ont la cote.
Ah, les vins de Loire ont la cote. Il y a une grosse remontée des vins de Loire. Dites, les Britanniques sont plus, enfin, les Londoniens sont plus connaisseurs de vin, des subtilités du vin que les Français?
Alors, c'est vrai que oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand on est en Angleterre, on parle beaucoup du cépage. On va pas dire tu veux boire un Bourgogne, tu veux boire un Bordeaux. Non, on va plutôt parler d'un Pinot Noir ou d'un Merlot. Donc c'est vrai que comme ils sont tournés vers le monde, hein, ils achètent du vin du Chili, d'Afrique du Sud. On parle beaucoup en cépage. Mmh. Et donc de ce fait, c'est vrai que ils sont un peu peut-être connaisseurs.
Oui.
On reste assez classique en France.
Vous êtes en Angleterre depuis combien de temps ?
10 ans.
Il y a un truc qui me fascine, moi j'ai vu des stats là, qui dit que Londres est la 6e ou 7e ville de France avec plusieurs centaines de milliers de Français qui vivent dans ta grande conurbation londonienne, alors qu'en France, il y a 30 000 Anglais quoi. C'est fou qu'il y a un tel déséquilibre. Il y a plein de... J'imagine que ça vous arrive souvent de marcher dans les rues à Londres et d'entendre des Français qui discutent entre eux.
Alors moi, je suis du côté d'Hammersmith, Bowgreen, donc il y a un primaire français, et en effet, il y a beaucoup de Français dans le quartier. Bon, ils travaillent en finance ou ils sont entrepreneurs. C'est vrai qu'il y a une culture de l'entrepreneuriat ici qu'on n'a peut-être pas en France, je ne sais pas. Mais par exemple, moi qui ai ouvert ma boutique il y a 2 ans, les gens locaux, les voisins, le voisinage vient me voir une fois par semaine. Il dit alors comment va le business, tu vas bien, tout va bien. Enfin bref, ils sont presque inquiets de savoir ma situation. Donc c'est bien de se sentir entouré et supporté par le voisinage.
Et Jean-Charles, je crois que vous êtes originaire de Paris. Pourquoi vous avez traversé la Manche pour vous installer à Londres?
Ben oui.
Ouais. Alors déjà c'était avant le Brexit. Je suis pas sûr que je l'aurais fait après. Et puis, en fait, j'ai enchaîné pas mal de missions intérimaires en France. Et quand on est intérimaire en France, on essaye toujours de travailler beaucoup plus pour décrocher le Graal, hein, le CDI. J'étais un peu écœuré de cette situation parce que, il y avait pas de considération vraiment. Et donc, j'ai dit à mes parents, j'ai pris un single ticket, j'ai acheté un aller simple pour Londres pour la semaine prochaine. Mmh. Et je suis jamais revenu.
Vous n'êtes jamais revenu. Et c'est marrant ça. Et pourquoi les Français vont à Londres? Alors pourquoi c'est ce que vous disiez, c'est la culture de l'entrepreneuriat, c'est parce que il y a plus de possibilités.
Et en même temps, c'est pas très loin.
C'est vrai que pour avoir travaillé en corporate en France, on est souvent jugé par nos écoles. Il y a des grilles en fonction des écoles, etc. Même quand vous avez 50 ans en France, où on demande encore quelle école vous avez fait. Ici, vous pouvez avoir une licence de philo et finir en compta. C'est assez, en fait, on juge pas en fonction de vraiment de ce que vous avez fait quand vous aviez 20 ans, mais plus en fonction de votre personnalité, de votre expérience de la vie.
Est-ce que en ce moment ça secoue en Angleterre? On dit que les gens ont un peu la gueule de bois après ce Brexit. Les années passent, on regrette. Est-ce que la situation économique est dure?
Oui, alors c'est vrai que à Londres, c'est pas le reste de l'Angleterre, mais on va dire que oui, c'est de plus en plus difficile. Nous, les petites entreprises ont beaucoup de mal à survivre. La restauration également, parce que en effet, les étudiants venaient souvent à Londres pour apprendre l'anglais et travailler dans la restauration et l'hôtellerie. Et aujourd'hui, certains restaurants sont en train de fermer parce qu'il manque de staff. Ouais. Donc il y a ce problème là en effet et encore une fois oui, il y a que les gros qui survivent et on tend à s'industrialiser un peu plus. J'ai un chef, parce que je connais un chef, il est venu en France la dernière fois sur un marché fermier et il a pleuré devant un étalage de fruits et légumes. Il m'a dit c'est tellement beau. Voilà, c'est vrai que en Angleterre on a tendance à mettre tout sous packaging plastique et heureusement encore on a des marchés fermiers de temps en temps. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, c'est la vie est pas facile.
Est-ce que les Anglais se foutent de nous ou est-ce qu'ils nous admirent? Quelle est la relation que ont notamment les jeunes?
Il y a toujours une certaine rivalité entre la France et l'Angleterre, hein, surtout qu'on est en train de fêter l'entente cordiale, je crois.
Oui, tout à fait, l'anniversaire de l'entente cordiale. Ouais.
Ouais. Bon, alors c'est là, on va dire que la classe moyenne ou la classe supérieure adore la culture anglaise, culture française.
Ah oui.
La reine parlait, l'aristocratie parlait français. Ils respectent beaucoup les Français. Donc, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite rivalité entre l'Angleterre.
Bien, ouais, merci.
On restera toujours des grenouilles pour eux.
Merci beaucoup Jean-Charles, qui était avec nous de Londres et qui a une cave à vin, c'est ça, hein, à Londres. Français qui est parti depuis 10 ans et qui vend du Bourgogne, mais pas que, aux Britanniques. Voilà, mesdames, messieurs. Allez, dans un instant, c'est l'heure du crime sur RTL. Nous serons avec l'ami Jean-Alphonse Richard. Restez à l'écoute de votre radio préférée. À tout de suite, à demain, Elisa Marie.
Et nous, on se retrouve demain.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1 184 €.
Venez les ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan et di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, hein, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
Là, vous entendez ? Et vous vous dites, bonne idée le roi Merlin, j'ai plein de temps et plein de petits travaux à faire. Sauf que là, quand je dis qu'avec le programme de fidélité Le Roi et moi, jusqu'au 14 mai, vous bénéficiez de 15 € de remise immédiate tous les 150 € d'achat, là vous vous dites, ok, eh ben y a plus qu'à s'y mettre.
Le roi Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir.
Conditions et modalités de l'offre en magasin ou sur leroimerlin.fr.
RTL 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
20 ans de fausses pistes, d'auditions de suspects par centaines, de tests ADN restés sans résultat, jusqu'à ce qu'un laboratoire parvienne à mettre un nom sur celui qui a étranglé Saïda et aussi une autre fillette, Sarah, 5 ans plus tôt. Cet homme, c'est Georges Pouille, 41 ans aujourd'hui.
Bonjour, il n'avait que 15 ans quand il a commis son premier meurtre. Il en a fallu 22 pour que la justice rattrape cet homme, le dénommé Georges Pouille. Dans le sillage de ce meurtrier silencieux, on va retrouver les corps de deux petites filles, Sarah, 6 ans, puis Saïda, 10 ans. Pouille ne leur a laissé aucune chance, puis a fini par les abandonner dans un coin comme on abandonne un objet. Il va falloir beaucoup d'efforts aux gendarmes et aux experts pour identifier cet individu handicapé par une maladie musculaire totalement inoffensif, d'après ceux qui le connaissent. C'est pourtant un visage bien plus inquiétant que les enquêteurs vont mettre au jour. Les psychiatres diront de cet homme que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait sans doute un jour ou l'autre récidivé. Pourquoi tuer ces fillettes qui ont eu pour seul malheur de croiser sa route ? Pourquoi un tel silence à la place des explications et des regrets ? Question posée aujourd'hui à nos invités. L'affaire Georges Pouille, Sarah et Saïda, le tueur sans visage de Vorep. La petite fille a été étranglée avec son sweatshirt, puis on l'a jeté dans le canal. L'enquête de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers, à tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime. RTL Matin. L'œil de Philippe Cavrivière.
Alors, j'ai lu l'article du Figaro. Il y a le directeur de recherche de l'INSERM, Jean-Marie Robin, qui explique « La multiplication des centenaires s'explique par la diminution de la mortalité avant 100 ans. » Donc, c'est parce que tu ne meurs pas avant 100 ans que tu vis après 100 ans. Et ça, c'est directeur. Eh ben, bravo.
Les chroniques de Philippe Cavrivière, c'est chaque matin à 7h55 sur RTL et aussi à 8h30. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Georges Pouille, la trajectoire d'un meurtrier d'enfants qui a longtemps réussi à passer entre les mailles du filet judiciaire. Il va falloir des années pour que son visage se dessine derrière les morts inexpliquées de Sarah et de Saïda. Dimanche 24 novembre 1996, il est 20h45, lorsqu'une mère de famille, Akila Berche, se présente à la brigade de gendarmerie de Vorep, une commune de l'Isère, à une demi-heure de Grenoble. Elle vient y signaler la disparition de sa fille, Saïda, 10 ans. Celle-ci a quitté la maison de l'avenue du 11 novembre, autour de 16h30, 17h, pour aller jouer avec des copines au gymnase L'Arcade, à moins de 100 mètres du domicile. C'est un trajet qu'elle connaît bien et qu'elle effectue régulièrement. Elle porte un anorak et un sweat. La maman, une veuve, dit avoir cherché partout sa fille dans un quartier qui aligne les maisons individuelles, un lycée professionnel et des locaux professionnels. Les gendarmes de Vorep, appuyés par leurs collègues de Grenoble, commencent à ratisser les lieux. Ils s'interrogent sur un possible accident. La route devant la maison est très passante, mais aucune trace de Saïda. Mardi 26 novembre, 10h40, moins de 48 heures après la disparition, Le corps d'un enfant est signalé par un promeneur. Le corps est à demi immergé dans le canal du Mont-Dragon, chemin du pont Bossu à Vorep, à un peu plus d'un kilomètre de la maison de la famille Berche. Il s'agit bien de Saïda. Elle a le visage cyanosé, l'anorak est baissé au niveau des coudes, le sweatshirt qu'elle portait a été noué autour de son cou, il a servi à la serrer avec force. Le légiste indique que Saïda a été étouffée. Elle n'a subi aucun viol ni agression sexuelle. Impossible de dire si la victime a été tuée à cet endroit, loin du gymnase où elle se rendait. Le meurtrier de Saïda n'a pas laissé beaucoup d'indices. Aucun ADN étranger n'est alors détecté sur les vêtements et le corps de l'enfant. Au fil des jours, les gendarmes de la brigade de recherche de Grenoble enregistrent néanmoins une série de témoignages intéressants. Trois personnes racontent avoir aperçu une petite fille qui marchait à côté d'un jeune garçon en VTT. Ils allaient en direction de l'endroit où a été découvert le corps. Il était autour de 17h. Un de ces témoins raconte qu'il lui semble avoir à nouveau vu le cycliste un peu plus tard, mais cette fois... il roulait tout seul. Il aurait même baissé la tête en croisant ce passant. Une femme raconte pour sa part avoir entendu ce dimanche à la même heure des pleurs d'enfants dans le coin, plainte qui s'est rapidement interrompue. La piste du VTTiste est prise au sérieux par les gendarmes. Il est décidé d'identifier tous les hommes détenteurs de VTT de la commune. Les vérifications et auditions vont aller bon train. Aucun des jeunes que compte Vorep n'échappe à ce contrôle géant qui se poursuit durant des semaines. Parmi les plus de 630 personnes interrogées figure le dénommé Georges Pouille, 21 ans à l'époque, un habitant de Vorep. Il connaît un peu la famille Berche et il possède un VTT de couleur grise. Il est questionné 15 jours après le crime. Il explique qu'il a passé une bonne partie de l'après-midi avec son frère Cédric. Il est revenu à vélo au centre-ville de Vorep aux alentours de 17h30. Puis il s'est rendu chez sa grand-mère dans le quartier du Bourg Vieux. Il faisait nuit quand il a rejoint son domicile, la maison où il vit avec sa mère. Il reconnaît qu'il portait ce jour-là une casquette, comme le jeune homme aperçu ce dimanche en compagnie de la petite Saïda. Mais il dément avoir roulé jusqu'au chemin du pont Bossu. Les recherches sont vaines. 28 septembre 1999, 3 ans après la mort de la petite fille, le juge prononce un non-lieu. Et c'est la fin donc de cette enquête, fin provisoire, car on va le voir, les gendarmes vont revenir sur ce Georges Pouille dans le profil. À ce moment-là, il faut bien le dire, ne retient pas l'attention, il glisse entre les gouttes. Georges Pouille, il va falloir attendre bien des années pour qu'on lui mette la main dessus. On va raconter, dans la suite de l'heure du crime, comment on a pu l'attraper et surtout quel secret il cache, pourquoi il s'en serait pris à des enfants. Bonjour Serge Puyot.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes le correspondant RTL à Grenoble. On connaît bien évidemment bien votre voix sur cette antenne et vous connaissez parfaitement cette affaire que vous avez d'ailleurs largement suivie pour RTL. Donc on est là à l'automne 1996, on est à Vorep, cette petite ville proche de Grenoble. On a l'impression que dans cette affaire, le ravisseur, puisqu'à l'époque on parle d'un ravisseur criminel, certes, mais d'un ravisseur, il a pris tous les risques parce que l'endroit est très urbanisé.
Oui, oui, il y a beaucoup d'habitations, il y a une cité HLM, la cité de Bourvieux, et donc effectivement c'est un endroit où on peut être repéré, il y a beaucoup de monde qui circule, et on se dit que peut-être que effectivement l'auteur de ces faits habite tout proche, qu'il connaît bien le secteur, à moins effectivement qu'il vienne de la région de Grenoble et qu'il soit de passage, mais c'est vrai qu'on se dit quand même qu'il a pris beaucoup de risques parce qu'il aurait pu être repéré par des habitants dans ce secteur très urbanisé.
Oui, d'ailleurs, Serge, il faut le souligner, il y a des témoignages, évidemment, qui ont vu cette silhouette. On n'arrive pas à l'identifier pour le moment, mais effectivement, il y a ce fameux cycliste avec cette petite fille. Alors, encore une question, Serge Puyot. Cette scène de crime, elle est un peu étrange, quand même, parce qu'on a l'impression que c'est un coup de colère, un coup de folie qui a animé le meurtrier. Et j'ai presque même envie de dire que ça ressemble presque à quelque chose d'intrafamilial, parce que souvent comme ça, une enfant qui est tuée comme ça de manière aussi brutale et qui n'a pas été violée, ça laisse beaucoup de questions en suspens.
Oui, il y a beaucoup de questions. Effectivement, le corps de la petite fille a été retrouvé dans la plaine de Vorep, hein, dans ce canal, a priori immergé, effectivement, en partie. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'allait faire la petite fille dans cet endroit-là? Elle a dû être emmenée, sans doute, par son agresseur.
Bien sûr.
Et on se dit, pourquoi elle s'est retrouvée là et quel est, effectivement, le mobile de ce crime, parce qu'il n'y a pas d'agression sexuelle. Donc, il y a beaucoup de questions et les enquêteurs sont très perplexes.
Alors, des enquêteurs perplexes, ce sont les gendarmes qui tiennent évidemment cette affaire. Bonjour, général François Daoust.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes l'ancien patron de l'IRCGN, c'est l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, et vous avez eu à connaître évidemment cette affaire. Vous la connaissez bien.
Alors, on la connaît par différents aspects. L'aspect criminalistique, pour une partie des scellés qui ont été étudiés, et aussi par le fait que, après, dans mes fonctions au pôle judiciaire de la Gendarmerie nationale, il y a le service central de renseignement criminel de la Gendarmerie, qui, justement, travaille sur le recueil d'un ensemble d'éléments qui doivent être croisés pour avancer.
Alors, ensemble d'éléments, il y en a un qui est incontournable, c'est évidemment l'ADN. Et on va en parler, parce qu'il va tenir une place importante, évidemment, dans cette affaire, et c'est de plus en plus le cas dans les affaires criminelles. À ce stade, général Daoust, il n'y a pas de trace ADN. Pourquoi c'est si compliqué de détecter de l'ADN sur le corps de cet enfant, et y compris sur ses habits, puisqu'on sait que le pull a servi à l'étrangler?
Alors c'est compliqué parce que vous avez le regard de quelqu'un de 2023. Et il faut se replonger en 1996, où les techniques ADN, certes, sur les principes, ce sont quasiment les mêmes qu'actuellement. Mais pour qu'une trace, à l'époque, arrive à sortir, il fallait qu'il y ait des dépôts d'ADN très importants, et non pas seulement quelques cellules. Et nous sommes dans ce cas.
Et j'ai lu aussi que le corps avait séjourné dans l'eau. Et que peut-être à l'époque, on n'a pas les moyens pour détecter ce genre de problématique.
Il y a le corps ayant séjourné dans l'eau, il peut y avoir des destructions aussi en partie d'ADN qui sont dues au développement bactérien, voire des champignons. Et la recherche comme ça à l'aveugle sur certains éléments, ou même si on passe des écouvillons, ne recueille pas assez d'ADN à ce moment-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi il n'y a pas d'empreinte a priori, on ne trouve pas vraiment rien. Qui puisse parler, ça veut dire que le meurtrier, il a pris des précautions, il avait peut-être des gants?
Alors, on peut toujours imaginer que le meurtrier avait des gants, ou il a la chance que justement une partie des éléments matériels eh bien, ne soit pas récupérable.
Serge Pueyo, qui en quelques mots, hein, vraiment en quelques mots, parce qu'on va tourner autour de lui, évidemment, qui est Georges Pouille, 21 ans au moment des faits, il ne s'est jamais fait remarquer, d'après ce qu'on sait?
Pas fait remarquer, mais effectivement, il a une enfance particulière. On va apprendre qu'il est né d'un viol. C'est ce que sa mère va révéler plus tard. Qu'elle a cherché à avorter et que finalement, ça n'a pas marché et que le petit Georges donc est arrivé. Il a une enfance difficile. Hein. Il était maltraité par sa mère, par le compagnon de cette dernière. Et puis, à 13 ans, il est tombé dans la drogue. Il a fumé du cannabis. Et il a avoué avoir touché aussi à la cocaïne. Un jour, il a même dit, lorsqu'il était petit, je suis le fils du diable, ce qui est quand même assez particulier.
Oui.
Et donc, voilà, il a une enfance très, très perturbée. C'est quelqu'un qui, effectivement, a beaucoup souffert dans son enfance et qui a aussi un léger retard mental.
Voilà, une enfance et une adolescence en zigzag, on va le dire comme ça. Bonjour, maître Denis Dreyfus.
Bonjour, monsieur Richard.
Merci beaucoup, vous aussi, d'être au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats de Georges Pouille, et c'est vous qui l'avez assisté beaucoup pendant toute cette affaire. Alors là, Georges Pouille, évidemment, il n'est pas suspect. On le laisse repartir après cette première audition. Pourquoi est-ce qu'on le laisse repartir? Parce qu'il n'y a pas d'éléments contre lui, c'est ça?
Alors, très curieusement, parce que quand j'ai été saisi de sa défense et qu'on a repris le dossier, on s'est aperçu qu'il avait un alibi. Qu'il était allé en fin d'après-midi, en fait après le meurtre de Saïda Berche, chez sa grand-mère. Et quand on relisait le dossier, on pouvait s'apercevoir aisément qu'on n'avait pas été très très perspicace sur la vérification de cet alibi et qu'on aurait sans doute pu gagner du temps, et notamment pour la manifestation de la vérité pour cette famille. Puisque il avait été vu à vélo et que on n'était pas allé l'interroger de manière très très précise, me semble-t-il.
2008, la création de la cellule mineur 38 et évidemment l'ADN va pointer un seul suspect possible. L'affaire Georges Pouille, Sarah et Saïda, le tueur sans visage de Vorep. La deuxième, c'est un accident. La première, j'étais habité par le diable. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, je vous retrouve dans un instant sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL.
C'était Adèle sur RTL.
RTL.
Oh, mince, une fuite en plein yoga. Ah mais ouf, je peux me donner à fond sans crainte maintenant avec Always Discreet. Ça retient toutes mes fuites urinaires et je me sens protégée dans toutes les situations. Always Discreet, protection fiable, discrétion incroyable.
Dispositif médical. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, ça va ?
Non, je suis accro.
Eh ben moi je suis accro aux acras. Et en ce moment, les acras de morue sont à 1,89€ les 200 grammes au lieu de 2,69€, moins 29%.
1,89€ les acras de morue.
Et issu de la pêche durable. Hein.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 9,45€.
5,50 € le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au jeudi 2 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Il n'y a pas d'âge pour apprécier un bon repas. Et choisir les menus services, c'est se simplifier la vie. Les menus services, le spécialiste du portage du repas à domicile qui s'adapte aux besoins des seniors. Les menus services livrent partout en France des repas variés, équilibrés, avec un large choix de produits de saison. Plus d'infos sur les-menus-services.com.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la trajectoire d'un meurtrier d'enfants, Georges Pouille. Comme des centaines d'autres hommes de Voreppe dans l'Isère, il a été entendu après la mort de Saïda, 10 ans en 1996. Dossier clos, rouvert une dizaine d'années plus tard. 21 avril 2006, le procureur de Grenoble décide de relancer l'enquête sur le meurtre de la petite Saïda Berche. Depuis 8 ans, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble ainsi que leurs collègues du département analyse criminelle à Rosny-sous-Bois travaillent sur le rapprochement de divers dossiers non résolus concernant des mineurs, dont 9 sont concentrés dans la région de l'Isère. Les enquêteurs ont fini par rapprocher le meurtre de Saïda de celui de la petite Sarah Siad, 6 ans. Perpétré 5 ans plus tôt dans la même localité de Voreppe. Le mode opératoire, un enlèvement, une victime étranglée à Paris, quasi identique. Le mardi 16 avril 1991, Sarah disparaît de l'aire de jeu de Bourvieux où elle vit. Elle est retrouvée le lendemain dans un bois à 300 mètres de son domicile. La fillette n'a pas été violée, mais il y a bien eu agression sexuelle. Des traces de sperme sont retrouvées sur le chemisier. À l'époque, les expertises ADN, encore trop peu précises, ne donnent rien. De nouveaux laboratoires sont sollicités pour reprendre les analyses dans les dossiers Sarah Siad et Saïda Berche. Dans ce dernier dossier, dans lequel aucun ADN n'avait été détecté, une trace génétique partielle finit par apparaître sur une manche du sweatshirt qui a servi à étrangler la victime. Mars 2013, la juge de Grenoble, Catherine Léger, en charge des dossiers Siad et Berche, ordonne de travailler sur d'éventuelles correspondances sur ces traces ADN. Les recherches sont longues, minutieuses, mais le fichier des empreintes génétiques, le FNAEG, livre un nom, celui d'un habitant de Voreppe, Georges Pouille, né le 16 mai 75 à La Tronche, autre localité de l'Isère. Son ADN est inscrit au FNAEG à la suite d'une infraction routière commise en 2005, quelques années après les meurtres. Il avait été arrêté pour conduite sous l'emprise de stupéfiants et défaut d'assurance. Mardi 23 juillet 2013, Georges Pouille, 37 ans, vivant en couple, père d'un enfant de 3 ans et demi, est interpellé à Voreppe. Il est placé en garde à vue, interrogé sur le deuxième meurtre, celui de Saïda. Il reconnaît les faits. Il indique avoir croisé la fillette à vélo. Il lui a prêté son VTT. Puis la fillette, dit-il, l'a suivie. Elle a insisté pour remonter sur le VTT. Il en a eu marre. Il l'a frappée à la nuque. Un coup de poing. Elle est tombée. Elle respirait toujours. Il l'a étouffée avec le sweatshirt. Il l'a laissée dans un fossé. Il ne comprend pas pourquoi on l'a retrouvée dans le canal. Il parle d'un accident. Il va changer plusieurs fois de version jusqu'à dire que Saïda était vivante et debout lorsqu'il l'a laissée sur le bord de la route. Georges Pouille est également placé en garde à vue pour le meurtre en 91 de Sarah Siad, 6 ans. Il n'avait alors que 15 ans, il était mineur. Il ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé, il ne reconnaît pas l'agression sexuelle, maintient qu'il ne s'agissait pas d'un crime. Là encore, c'était un accident. Devant le juge, il va même expliquer qu'il était habité par le diable, il ne savait pas ce qu'il faisait. Monsieur Pouille ne reconnaît pas les infractions telles qu'elles sont qualifiées, indique au journal Le Monde son avocat de l'époque, maître Emmanuel de Combes. Lequel ajoute que les expertises psychiatriques de son client vont être fondamentales. Et on va voir bien sûr dans la suite de l'heure du crime ce que vont donner ces expertises autour de cet homme qui est parvenu à ne pas être soupçonné depuis de très nombreuses années avant que le travail de rapprochement des enquêteurs, mais aussi les expertises ADN, finissent par le confondre. Général François Daoust, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, ancien patron de l'IRCGN, directeur de la CY Forensic School à Cergy Paris Université et du Centre de Recherche de la Gendarmerie. Si je cite tous ces titres, c'est parce que vous êtes évidemment un expert en matière criminelle. Le déclic dans cette affaire Georges Pouille, c'est lorsqu'on rapproche les affaires.
Oui. La création de cette cellule, qui a été d'ailleurs, il faut le reconnaître, sous l'impulsion d'une des sœurs des petites victimes que vous avez citées dans cette région, qui va conduire la gendarmerie à, au niveau national et avec la section recherche de Grenoble, à créer la cellule mineure 38. Et regarder qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cellule. On essaye de voir comment on peut rapprocher les affaires. Et le premier rapprochement que l'on fait, c'est le modus operandi.
Ouais, c'est ça.
Et là, il y a deux affaires qui sortent.
Même si dans une affaire il y a une connotation sexuelle, il faut pas le nier, évidemment, elle existe. Dans l'autre, pas du tout.
Alors, il y a une connotation sexuelle dans la première et qui ne ressort pas dans la seconde, mais comme vous l'avez dit, ce sont des traces de sperme et ce n'est pas un viol.
Ouais, c'est ça.
Il est peut-être que dans la seconde affaire, les traces de sperme, eh bien, ou elles ont été protégées, ou elles ont disparu. Ouais. Toujours est-il que la façon dont a été tuée la victime et le scénario qui procède à son enlèvement et à ce drame est similaire.
Est identique. J'ai envie de vous dire, Général Daous, pourquoi on n'a pas rapproché plus tôt les affaires? Parce que c'est deux crimes qui se passent à Vorep. On a l'impression que c'est évident. On va dire, bah, tiens, on va regarder l'un et puis l'autre.
Au même titre que pendant presque 20 ans, on n'a pas fait de travail de fond, un rapprochement d'affaires sur ceux qui pouvaient être sériels, c'est-à-dire des crimes en série sur l'ensemble des 11 enfants disparus dans l'Isère. C'était pas dans la culture française.
C'est l'évolution de la méthodologie
allemand,
qui change et qui porte ses fruits. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on rapproche maintenant systématiquement les affaires. Serge Peillot, correspondant à RTL à Grenoble, et vous connaissez parfaitement cette affaire. Lorsqu'il est interpellé, Georges Pouille, ses proches, ils tombent des nues parce que effectivement, cet homme, on dit, il est inoffensif. En plus, il est malade.
C'est ça, exactement, et notamment sa compagne du moment, avec qui il a eu un enfant, que j'ai rencontré d'ailleurs très rapidement après son arrestation, elle tombe des nues, comme vous dites, elle ne comprend pas pourquoi et comment cet homme avec qui elle a pu vivre, elle a pu avoir un enfant, est aujourd'hui accusé de deux meurtres de petites filles. Elle est complètement abattue, complètement terrorisée de savoir qu'elle a partagé la vie de cet homme, mais en tout cas, à aucun moment, elle ne s'est doutée du passé de son compagnon.
Oui, donc effectivement, c'est la surprise, parce que cet homme, encore une fois, il est handicapé, il souffre d'une maladie qui le gêne pour marcher, notamment pour progresser. Maître Denis Dreyfus, vous êtes également l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, vous êtes l'un des avocats de Georges Pouille. Quelle attitude Georges Pouille a-t-il en garde à vue? On a l'impression qu'il va beaucoup changer de version.
Alors c'est un garçon qui avec le temps a évolué avec des difficultés de santé puisqu'il est atteint d'une maladie dégénérative, donc ça n'a pas facilité les choses dans son expression au stade de la garde à vue. Il conteste dans un premier temps et puis il reconnaît, il passera aux aveux sur les deux affaires criminelles qui lui sont reprochées. Et puis, petit à petit, il va essayer de se rétracter ou de donner des explications qui apparaissent relativement peu crédibles. Et notamment concernant Saïda Bersh, il va contester ensuite ce qui a été établi par l'autopsie, avoir étranglé cette jeune gamine au pied d'un canal situé à deux pas d'un lieu de passage assez important.
Alors ça, c'est pour Saïda Bersh, il est très peu bavard, même j'ai l'impression, sur le premier meurtre, celui de Sarah, ça c'était en 1991. Qu'est-ce qu'il dit sur le meurtre de Sarah?
Alors, il le conteste. En tout état de cause, il explique qu'il a vu l'enfant, qu'il n'a pas participé à son meurtre. Et pour expliquer le fait que l'on retrouve du sperme sur les vêtements de l'enfant, il explique qu'il a vu l'enfant et qu'il se serait masturbé, ce qui, bien entendu, n'apparaît pas crédible aux yeux des enquêteurs et d'autant moins crédible avec l'autre meurtre pour lequel il est aussi mis en cause.
Serge Peillot, encore un mot. Sarah, c'est en 1991. La deuxième victime, c'est 5 ans plus tard. Il a repris le cours normal de sa vie avec ses meurtres. Il ne s'est jamais fait remarquer entre-temps et on a l'impression qu'il est resté là, tranquillement, à Vorep.
Exactement, il est resté à Vorep, il a d'ailleurs côtoyé les familles de ces deux petites victimes, il a continué à vivre comme si de rien n'était, et un détail assez glaçant, lorsqu'il a eu un enfant donc avec sa compagne, il a fait garder cet enfant par la maman de la petite Sarah Siad, il a confié son enfant à la garde d'une maman d'une de ses petites victimes, ce qui est quand même assez particulier.
C'est glaçant et effrayant ce que vous nous racontez, évidemment, Serge Peillot. On mesure là un petit peu mieux l'épaisseur du personnage. Un suspect numéro 1
qui dit ne pas avoir tué volontairement, il ne va pas échapper à deux procès d'assises. L'affaire Georges Pouille, Sarah et Saïda, le tueur sans visage de Vorep. Vous souhaitez dire un mot à votre mère ? Non, j'ai rien à dire et je m'en fous. L'enquête, aujourd'hui, de l'heure du crime. Que cache cet accusé sans mémoire et sans remords ? La suite, dans un court instant sur RTL.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Hello everybody, it's Ryan Gosling. J'ai eu la chance de voir le film Un petit truc en plus de mon ami Artus. J'ai rigolé énormément et c'est beaucoup de l'émotion. C'est vraiment un super film. Merci Ryan. Si comme Ryan Gosling vous voulez découvrir Un petit truc en plus, ça sort aujourd'hui au cinéma. Je vous fais des bisous. Un petit truc en plus, un film Nutri-Score A. Attention, ce film peut contenir des traces d'Alice Belaïdi et Clovis Cornillac.
Avec RTL.
Chez Poltrone Sofa, la qualité se voit, mais surtout, elle se ressent. Caressez le cuir du canapé Bormida et détendez-vous avec son relax électrique.
Jusqu'à samedi, il est remisé de 40%. Il ne coûte que 1184 euros.
Venez le ressentir en magasin. Poltrone Sofa, solo divan di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous font des prix sur les nouveautés du moment ? Pas sur des nouveautés qui datent de vraiment trop longtemps. Jusqu'au 27 mai pendant l'opération C'est nouveau et c'est moins cher, profitez de 15% de réduction sur tous les portails standards et sur mesure. Oui, tous, 15%, même sur les nouveaux modèles de la gamme. Une offre comme ça, même chez la paire. Il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr.
Enfin, au livre de poche, L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Inspirée par la figure de sa grand-mère, Ménie Grégoire, célèbre animatrice radio, Adèle Bréau explore un demi-siècle d'évolution de la condition féminine à travers la destinée de quatre héroïnes, des années 60 à nos jours.